Chapitre 8. Des spasmes musculaires secouent le corps de Kira. Ses membres inférieurs se mettent à bouger de façon involontaire pendant que ses yeux se renversent.
Kira !
Je crie. Plante immédiatement la seringue dans son bras et y injecte son contenu. Mais elle cesse de bouger et me fixe avant de fermer soudainement les yeux.
Kira ! En combien de temps l'antidote doit agir ?
Je m'emporte. Ahmed regarde sa fille s'éteindre et il se met à suffoquer.
Non, ce n'est pas possible. Elle ne devait pas mourir, non. Elle ne le devait pas.
Je passe ma main sous la tête du corps inerte de Kira et je la secoue de toutes mes forces, mais elle n'a aucune réaction.
Ouvre les yeux. Kira, regarde-moi !
Je m'exclame. Elle garde les yeux fermés et elle est tellement pâle qu'elle est méconnaissable. Ses lèvres et son bras sont toujours aussi bleus. J'entends les pleurs de Josh et Damon alors qu'Ahmed suffoque toujours. J'observe Kira, couchée sur ce lit, avec l'espoir qu'elle se relève rapidement et que l'antidote fasse effet. Je cligne des yeux et une larme s'échappe de mon œil droit. Mon cœur m'oppresse. Qu'on me prenne ma vie et qu'on la laisse vivre, c'est tout ce que je demande.
Tu n'avais pas le droit de mourir. Je t'aime aussi, Kira.
Ma larme tombe sur le corps immobile de ma femme. Dans un dernier élan d'espoir, je me lance dans un massage cardiaque. Mais elle reste impassible, comme si elle n'avait jamais vécu. Elle ressemble à une petite poupée de chiffon sans vie.
Tu ne peux pas partir!
Je m'époumonne. Je sais que hurler ne la fera pas revenir, mais il ne me reste plus que ça. Josh et Amen ont le regard embué à cause des larmes qui coulent sur leurs joues. Ils ne peuvent pas parler. Seuls leurs sanglots traduisent leur désespoir. Je poursuis le massage cardiaque pendant quelques minutes, puis je cesse en voyant que Kira n'émet aucun signe de vie. Je prends son pouls, et une lueur d'espoir envahit soudain mon esprit.
Son cœur bat, il est faible, mais il bat encore.
Une semaine plus tard, hôpital, 11h03. J'ouvre difficilement les yeux en sentant deux mains dans les miennes. L'une est celle de Josh, tandis que l'autre est à Mathieu. Je les observe attentivement. Ils ont tous deux les yeux remplis de larmes. Ils semblent fatigués au vu des cernes noires qu'ils ont sous les yeux. J'essaie de parler, mais ma gorge est si sèche que je n'arrive pas à émettre une seule parole. Je murmure le mot haut, et Josh s'empresse de lâcher ma main. Il se dirige vers la table de chevet à côté de mon lit et me sert un verre. Il m'aide à boire et ma gorge revit. Je leur adresse à tous deux un sourire gêné en voyant l'état dans lequel ils sont par ma faute. Je vais parler, mais Mathieu m'arrête en me serrant dans ses bras si fort que je me demande d'où lui vient cette force. Je ne peux pas m'empêcher de savourer ce contact si chaleureux, alors qu'il pleure. « Tu m'as fait si peur. Ne me refais plus jamais de frayeur comme celle-ci. Je ne peux pas vivre sans toi à mes côtés. » me glisse-t-il à l'oreille. Il se recule et je passe mes doigts sur ses joues pour essuyer ses larmes. Il ne semble pas vouloir cesser de pleurer, mais je suis heureuse de le revoir. « Je vais bien, Mathieu. » Je serre sa main dans la mienne et dépose un baiser sur celle-ci. « Désolée de vous avoir inquiété. » Josh passe sa paume sur mes cheveux et les caresse tout doucement. Il me fixe avec un air mêlant joie et tristesse. Les sentiments qu'il éprouve semblent contradictoires. Je remarque que les effets du poison se sont dissipés sur mon bras empoisonné. Il ne reste qu'une cicatrice insignifiante. « Je suis ici depuis combien de temps ?» Je leur demande. La dernière chose dont je me souviens, c'est Ahmed débarquant avec l'antidote. « T'es dans le coma depuis une semaine, » m'informe Josh. « Les médecins nous ont dit que le fait de t'avoir administré l'antidote à temps a permis de te sauver la vie. Mais que, comme ton corps avait subi énormément de dégâts, ils ne savaient pas quand tu sortirais du coma. Je ne ressens plus de douleur ni de migraine. » Pour être tout à fait honnête, je me sens bien, même si mes idées restent très embrumées. Le médecin a dit que ton corps était en parfait état et que les effets du poison avaient cessé. Tu as juste besoin d'un peu de repos, mais sinon tout va bien. Précise Mathieu. Je hoche la tête. Ilyan va mieux ? Je demande, dans un moment de lucidité. On a préféré ne pas l'informer de ton état. Il se sentait déjà suffisamment coupable que tu l'aies sauvé de la noyade. Amir l'a envoyé quelques jours chez une connaissance pour éviter que Monsieur X tente à nouveau de s'en prendre à lui, m'indique Mathieu. Je suis rassurée de savoir qu'il n'est pas au courant et qu'il se porte bien. Vous avez bien fait. J'inspecte la chambre d'hôpital. Je m'attendais à ce qu'Amir débarque accompagné d'Aïmen et qu'il me serre dans ses bras si fort que j'aurais failli m'étouffer. J'essaie de dissimuler ma déception à Mathieu et Josh, qui me racontent ce que j'ai raté durant cette semaine. Mais je suis déçue de ne pas voir Amir. Est-ce qu'il est venu me rendre visite à l'hôpital ? Peut-être qu'il ne souhaitait pas me voir dans cet état ou qu'il était trop occupé pour venir. Mathieu semble avoir remarqué mon sourire de façade, puisqu'il cesse de parler et qu'il donne un coup de coude à Josh pour qu'il se stoppe également. Amir assiste à une réunion avec ses hommes. Il était obligé d'y aller. Mais il aurait préféré 100 fois rester ici avec toi, me souffle Mathieu. Il n'a pas quitté ton chevet depuis que nous sommes arrivés à l'hôpital. Il a même fait don d'une très grosse somme à l'hôpital pour qu'on lui permette de rester avec toi la nuit. Il ne t'a pas laissé une seule seconde. Il a passé ses journées à attendre patiemment que tu te réveilles, complète Josh. Mon cœur se réchauffe en recevant ces informations. Je suis sincèrement touchée par sa dévotion. Il a fait de moi sa priorité et ne m'a pas abandonnée. Je n'en attendais pas moins de lui. Il s'est laissé dépérir pendant cette semaine. Tu vois cette chaise à côté de ton lit ? Me demande Mathieu. Je scrute l'assise en bois qui semble inconfortable. Amir n'a pas changé de place de la semaine. Les 2 premiers jours où tu étais dans le coma, il n'a rien voulu avaler. On a tous essayé de le forcer pour qu'il rentre à la villa se reposer et avaler quelque chose pendant qu'on veillait sur toi, mais il a refusé catégoriquement. Il craignait que tu te réveilles en son absence, ajoute Mathieu. Depuis que t'es dans le coma, il n'a pas dit un mot. Ses journées se résument à rester sur cette chaise et à te regarder. Renchérit Josh. Mon cœur se serre en imaginant tout ce qu'il a été contraint d'endurer par ma faute. Je me sens affreusement mal, avec l'envie immense de le sentir contre moi. Ne sois pas triste, Kiara. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Tu es réveillée et Amir sera heureux de l'apprendre. Me rassure Mathieu. Je vais lui téléphoner pour le prévenir, dit Josh en attrapant son téléphone. Mais je l'arrête d'un geste de la main. Dites au médecin de préparer toutes les décharges nécessaires. Je veux rentrer à la maison aujourd'hui. Ne prévenez pas Amir. Je veux lui faire une surprise. Ils ne te laisseront pas partir après une semaine de coma. Tu es sûr que c'est prudent de rentrer alors que tu viens de te réveiller ? Me demande Josh. Je me sens très bien. Je suis prête à me soumettre à tous les examens des médecins. Leur responsabilité ne sera pas engagée s'il m'arrive quelque chose, puisque je vais signer tous les papiers de sortie. Je n'ai pas envie de passer plus de temps ici. Je veux rentrer à la maison. Il semble hésiter, mais mon regard déterminé les convainc. Josh sort de ma chambre, sûrement pour appeler un docteur, tandis que Mathieu caresse ma joue. Je suis de retour. Quelques heures plus tard, Auditorium Ben Khalif, 14h36. Je descends de la voiture, accompagnée de Josh et Mathieu qui se tiennent à mes côtés, de peur que je m'écroule. Mais je me sens bien. Je n'ai pas l'impression d'avoir été dans le coma. Les médecins étaient d'abord réticents à me laisser sortir, mais quand ils ont vu que tout allait pour le mieux dans mes examens, ils m'ont permis de quitter l'hôpital. Ils ont insisté pour que je me ménage et pour que je revienne si je me sens mal. Mes amis ont tout de suite été rassurés quand j'ai obtenu leur accord. Je me suis rapidement habillée avec les vêtements que Mathieu m'avait apportés dans une petite valise. Je ressens une boule au ventre en me rapprochant de l'auditorium où se trouve mon époux. Je n'aurais peut-être pas dû lui faire de surprise, je ne sais pas comment il va réagir. Mais il est trop tard pour reculer. J'entre dans le bâtiment qui accueille l'auditorium. Il a la forme d'une grosse coquille Saint-Jacques. Je me sens minuscule. Je ne savais pas qu'Amir disposait d'un lieu comme celui-ci. Mais je dois admettre que ça doit lui être très utile, puisque tous ses hommes le voient lorsqu'il est au centre de l'édifice. Je pose ma main sur la poignée de la porte et hésite avant de l'ouvrir. Je soupire, puis ouvre d'un coup. Vu de l'intérieur, la salle est encore plus gigantesque. De nombreux balcons entourent la grande scène qui fait plusieurs mètres carrés. Cette salle doit comporter au moins 1000 places. Sur la majorité des sièges se trouvent des hommes de tous les âges. Leurs yeux se braquent sur moi. Je ne suis pas timide, mais je me sens déstabilisée face à cette assemblée. Qu'est-ce qui m'a pris de venir ici ? Sur la scène centrale, j'aperçois Amir. Il est habillé d'un costume et d'une chemise noire et d'une paire d'italiennes assorties. Il est loin de moi, mais je le trouve magnifique. Nos regards se croisent. Il ne dit rien et reste immobile. Je n'aurais vraiment pas dû venir ici. Il ne va pas me prendre dans ses bras, ni manifester la joie qu'il ressent de me revoir alors que tous ces hommes sont présents. Il se met à cligner des yeux, comme pour s'assurer que c'est bien réel. C'est à mon tour d'être figé. Il descend de la scène et monte les escaliers de l'auditorium pour me rejoindre. À cet instant, mon corps se met en mouvement pour avancer vers lui machinalement, comme s'il était attiré par le sien. Nous arrivons face à face. Je ne suis qu'à une marche de lui. Il me détaille avec attention, mais ne fait aucun geste. Ses yeux sont cernés, son teint plus pâle que d'habitude, ses cheveux moins ondulés que d'ordinaire et ses muscles tendus. Il a l'air exténué. On dirait qu'il n'a pas eu de véritable nuit de sommeil depuis bien longtemps. Je sens tous les regards braqués sur nous, mais le seul qui m'intéresse est le sien. Son visage est si fermé qu'il ne semble pas heureux de me revoir. Cette situation est tellement embarrassante. Je finis par prononcer quelques mots. « Tu m'as manqué, Amir. » Je me sens rougir et j'incline la tête sur le côté. J'ai l'impression d'être une gamine gênée parce que son petit copain ne veut pas lui parler. Je n'aurais pas dû me ramener ici. Amir est bien trop fier et pudique pour exprimer sa joie dans ces conditions. Je ne sais pas ce que j'imaginais, mais j'avais tort. D'ordinaire, j'aurais été fâchée face à son manque de réaction, surtout devant autant de monde. Mais je ne lui en veux pas. J'avais juste besoin qu'il me serre contre lui et qu'il me dise qu'il est heureux que j'aille bien. Mais mon impatience n'a pas choisi le bon moment. Je sens les larmes monter, alors je me mords la langue pour éviter de déraper comme une idiote et de m'humilier publiquement. On se voit quand tu auras fini ? Je bredouille. Je compte lui tourner le dos pour remonter les escaliers et quitter ce lieu où j'ai l'impression d'être une bête de foire. Mais il me retient par le bras et m'attire contre lui. Il plaque ma tête contre son torse et enroule ses bras autour de mon corps. J'entends les battements de son cœur. « Tu m'as manqué aussi, poupée. » Cette simple phrase déclenche mes larmes. Je baisse la tête, honteuse de pleurer devant lui et ses hommes. « Je suis content de te revoir. Tu peux pas imaginer à quel point. » me confesse-t-il. Il me soulève d'un coup, mes pieds ne touchent plus le sol. J'enroule mes jambes autour de sa taille et j'enfouis ma tête dans son cou pour sentir son parfum. Amir me tient vigoureusement et caresse mon dos pour me consoler. Depuis quand je pleure comme ça, moi ? Ça doit être les effets secondaires de tous les médicaments qui m'ont été administrés à l'hôpital. « Montre-moi ton visage. » me susurre-t-il à l'oreille. J'écarte ma tête de son cou et plonge mes yeux dans les siens. Il a l'air vraiment épuisé, mais il est tellement beau que ça en deviendrait presque indécent. Ça n'est pas humain d'aimer comme je l'aime. Amir s'approche subitement de moi et presse ses lèvres contre ma bouche. Il m'embrasse avidement, comme si c'était un besoin vital. Ma langue se met à jouer avec la sienne. Ça faisait longtemps. Quand j'entends des applaudissements, je me rappelle que nous ne sommes pas seuls. Ça ne semble pas déranger Amir, mais moi si. Je le repousse et il sourit toujours tout en me scrutant. Ces hommes ne cessent pas d'applaudir, comme si on venait de se marier à nouveau. Amir me repose par terre, il sèche mes larmes, puis il plaque encore ma tête contre son torse. J'ai l'impression que nous sommes des acteurs qui venons de donner une représentation. Les applaudissements de tous ces subalternes me mettent vraiment mal à l'aise. Ils sont contents pour nous, mais j'aimerais qu'ils cessent de me gêner. Tu n'as pas à avoir honte. Tous les hommes présents sont ta famille et ils se tiennent à ton service. Me glisse Amir. Je le détaille avec incompréhension, puis il m'attrape par le bras et me tire avec lui jusqu'à la grande scène centrale. J'essaie de me dégager de son emprise, mais c'est peine perdue. Une fois au milieu de la salle, il cesse d'applaudir. Amir m'attrape par la taille et me colle contre lui. « Ma femme est enfin de retour. J'ai le plaisir de vous présenter officiellement Chiara Ben Khalif. Elle est désormais votre patronne. Vous lui devez le même respect qu'à moi. Soyez digne de sa confiance et soyez prêt à mourir pour elle. » déclare Amir en souriant. Mes yeux s'ouvrent sous le choc de cette annonce et encore plus lorsque je vois ce que tous les hommes présents sont en train de faire. Ils se lèvent tous de leur siège et posent un genou à terre. « Non, ne faites pas ça, c'est inutile. Relevez-vous, s'il vous plaît. Cette situation me met vraiment mal à l'aise. » Je leur dis en m'assurant de parler bien fort pour qu'ils m'entendent tous. Mais mes paroles n'ont aucun effet. Je suis vraiment gênée. Nous ne sommes pas roi et reine. Ils n'ont pas à faire ça. Amir m'embrasse la joue. Je te présente ta famille, Chiara. Je n'arrive pas à y croire. Toutes ces personnes acceptent de se soumettre à mes ordres, alors que l'on m'a toujours expliqué que dans ce monde, un homme ne se soumettrait jamais à une femme. J'observe Amir qui se tient fièrement devant eux. Il possède un charisme exceptionnel. Bon retour chez les vivants, poupées.